Radio Kapi. Oh, Kapi. Belinda Bosuma à la présentation.
Ça se passe aujourd'hui, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur ainsi que des sénateurs dans quelques provinces de la RDC. C'est notamment au Nord Kivu où se déroule l'élection des sénateurs. Nous en saurons plus dans un instant. Les leaders des groupes armés Zaïre et Codeco réitèrent leur engagement à respecter les accords pour cesser enfin les hostilités en Ituri. Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre ce week-end avec une équipe conjointe MONUSCO-gouvernement provincial à Banyali-Kilo dans le territoire de Djougou. Et puis, l'invité de ce midi, Benjamin Kalumiré, chef de section désarmement et démobilisation PDDRCS Sud Kivu. Il nous parle des acquis de la formation organisée la semaine dernière à Goma par la section DDR de la MONUSCO, ce au profit des cadres et agents de ce programme. Madame, Messieurs, bonjour. Élection sénatoriale ce dimanche 26 mai à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Quatre sénateurs seront connus à l'issue du vote organisé sur place par la CENI. Retrouvons sur place à Goma Bernardine Diambou pour les détails.
La séance a débuté par une plénière qui a porté sur la vérification des quoriums et sur l'effectif de 48 députés que compose l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. 45 députés sont déjà dans la salle de plénière et 3 absents, a communiqué ainsi le président de l'organe délibérant au Nord Kivu, Robert Abisutu Seninga. Rappelons que ce vote a été précédé par une période de la campagne électorale qui a duré 3 jours sur un effectif de 34 candidats, qui retenus sur la liste de candidats. 27 candidats ont défendu leur vision devant les élus provinciaux du Nord. Dans leur présentation, tous ont promis d'œuvrer pour combattre l'insécurité et pour relever les défis et les développements qui connaissent la province du Nord Kivu. Comme dans toutes les autres provinces, 4 sénateurs seront élus. Signalons la présence des observateurs, des témoins et des journalistes à ces scrutins. Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Rendons-nous au Kasaï oriental pour parler de cette rencontre vendredi entre 43 conseillers communaux et 5 chefs de bureau des communes de la ville de Mbujimayi. C'était pour une formation sur la problématique de la première expérience des conseillers communaux en RDC. Ces travaux d'un jour ont été organisés par le Centre d'études et des formations populaires pour les droits de l'homme, CEFOP en sigle. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « Action des citoyens pour la transparence des élections en 2023, acte 23 en sigle. D'après l'assistant juridique de CEFOP, le but de cette formation est de contribuer au renforcement des capacités des conseillers communaux et d'améliorer leurs connaissances sur leurs attributions, étant donné qu'ils sont à leur première expérience. Maître Clément Mukendi en parle au micro d'Esther Dalafina.
C'est une toute première expérience et beaucoup des élus communaux ont des petites difficultés sur les travaux qui les attendent en tant que conseillers communaux afin que ces derniers puissent réaliser un travail de qualité, un travail qui concourt à l'intérêt général de la population de leur commune. Beaucoup des élus sont pour leur toute première fois engagés dans la carrière politique et pour pouvoir les aider à mener tout le monde à une même vision pouvant conduire à un travail de qualité, un travail professionnel de terrain. Et là, nous avons épinglé les attributions phares. Premièrement, le conseiller communal a comme rôle dans sa communauté de légiférer. Ils doivent élaborer des règles de conduite qui réglementent la vie dans leurs entités. Et cette réglementation-là doit se référer à l'article 50. Deuxièmement, comme rôle également, c'est de contrôler les collèges exécutifs communaux, les services publics et entreprises publiques relevant de la compétence de la commune. Et là, nous avons donné les 5 outils que l'article 138 de notre Constitution prévoit comme moyen pour pouvoir assurer le contrôle parlementaire.
Touché par les récentes bombes larguées dans les camps des déplacés à Mugunga au nord Kivu par le M23 appuyé par l'armée rwandaise ainsi que par plusieurs autres violences, la Corporation des femmes autochtones en RDC demande à la présidente de l'instance permanente des Nations Unies de s'impliquer pour mettre un terme aux violences contre les populations vulnérables. Dans une déclaration vendredi devant la presse à Kinshasa, la Corporation des femmes autochtones en RDC rappelle que ces massacres et autres violences, particulièrement contre les femmes autochtones, pygmées et les enfants, mettent en péril leur sécurité et leur survie. Leur déclaration est lue ici par Moniré Priscilla Kapupu, propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Hier firent le massacre de Vankutu à l'est dans des milliers autochtones dans la province de l'Ituri, des violences physiques en termes de tuerie à Beni Butembo dans le nord Kivu, la chosification de la personne de la femme à Mambasa toujours dans la province de l'Ituri, aujourd'hui les bombardements au camp des réfugiés de Mugunga au nord Kivu dans la ville de Goma. La Corporation des femmes autochtones en République démocratique du Congo vous demande également d'interpeller la communauté internationale ainsi que les autorités congolaises et de les inciter à prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à ces violences inacceptables. Votre travail au sein de l'instance permanente des Nations Unies sur la question des peuples autochtones est d'une importance capitale pour la protection et la promotion des droits de ces peuples à travers le monde. Il est impérieux que la communauté internationale se mobilise pour protéger les droits et la dignité des femmes et des enfants autochtones pygmées en République démocratique du Congo.
Pendant ce temps, en Ituri, plus de 150 sites miniers sont actuellement occupés par les groupes armés qui contrôlent presque toute l'étendue du secteur de Banyarikilo, territoire de Djougou. Certains combattants y exploitent de l'or, alors que d'autres, surtout leurs leaders, font payer des redevances aux orpailleurs, rapportent les notables de cette entité coutumière. Cette exploitation s'est faite également dans d'autres entités du territoire d'Irumu, notamment dans les chefferies Babo Abokoe, Babelebe et Walendu Bindi, ceux qui contribuent à pérenniser les conflits armés dans cette province, comme nous le dit Isaac Remoyope.
13 groupements sur 15 des secteurs de Banyarikilo sont occupés par les groupes armés qui y ont établi une administration parallèle. Ces assaillants travaillent dans des sites miniers dont les revenus servent pour leur survie, précise certains notables. Leurs leaders perçoivent aussi chaque mois des redevances estimées à environ 30 à 50 000 dollars auprès des creuseurs artisanaux et propriétaires des carrières minières. Même les exploitants étrangers sont soumis à leur administration. Même décor dans les chefferies de Babo Aboko et Vermwanga et Babelebe où certains miliciens ont envahi depuis lundi les sites miniers de Kabarole. Dans le Walendu Bindi, la FRPI contrôle la zone minière de Bavi et sa périphérie. Cette situation qui pérennise la guerre à Ituri inquiète les leaders communautaires dans ces entités. Ils demandent au gouvernement de restaurer l'autorité de l'État. L'un d'eux, Vital Tungulo, président de la communauté Nyali.
C'est plus de 150 sites miniers qui sont entre les mains des miliciens. C'est la principale source de ravitaillement, de renforcement de ces miliciens.
Le porte-parole des FARDC indique que le gouvernement provincial a déjà pris des dispositions pour mettre fin à l'exploitation illégale des minerais dans ces zones, du lieutenant Gilles Ngongo.
C'est un de ces quatre matins, cette situation prendra fin et favoriser l'exploitation légale des minerais.
Cette activité d'exploitation de l'or est à l'origine des dissensions dans les groupes armés pour le contrôle des sites miniers. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Entre-temps, les leaders des groupes armés Zaïr et Codeco, toujours en Ituri, réitèrent leur engagement à respecter les accords pour la cessation définitive des hostilités dans cette province. C'était au cours de la réunion d'échange vendredi et hier samedi avec une équipe conjointe MONUSCO-gouvernement provincial dans le secteur de Banyarikilo, territoire de Djougou. Les communautés locales ont été également sensibilisées à promouvoir la cohabitation pacifique au regard des tensions ethniques observées depuis plus d'une semaine dans cette entité, selon les organisations. L'objectif de cette démarche est de consolider la paix en Ituri. Retrouvons encore une fois Isaac Remoyope.
Cette équipe conjointe MONUSCO et gouvernement provincial, accompagnée des 13 chefs de groupement de Banyarikilo, occupés par des groupes armés, s'est rendue à Bambou, Kobu, Kilo et Itende, à plus de 30 km au nord de Bounia. Les membres de la délégation ont rencontré les leaders de la milice Codeco et Zaïr. Au cours de leur échange, ils ont passé en revue le clause de l'accord de paix Darou, signé en juin 2023, qui prévoyait notamment la cessation définitive des hostilités et le retrait des miliciens dans les entités des communautés locales. Les leaders de Codeco se sont engagés à appliquer cet accord accord qui sera précédé d'un dialogue entre les communautés Lendu et Niali. Cela pour étouffer la tension ethnique dans la région où des civils innocents sont agressés ou lynchés à cause de leur identité vers Mungwalu. Selon les porte-paroles de l'armée, cette étape est décisive avant l'usage de la force pour imposer la paix. Le lieutenant Gilles Ngongo.
La région militaire, l'affaire civile de la MONUSCO et les AT se sont dirigés vers cette zone pour tout d'abord conscientiser les communautés, appeler les groupes armés à respecter leur cahier d'engagement. Le contraire, c'est pour voir comment nous allons déployer les militaires pour imposer l'autorité de l'État.
Cette équipe conjointe se rendra cette semaine dans les localités situées sur l'axe Katoto, Masumbuko, Largo, Drodro, Boulé, dans les territoires de Djougou où les menaces des groupes armés sont permanentes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu. C'est depuis environ 6 mois que le parc national des Virunga a érigé une clôture électrique le long de sa limite avec les communautés riveraines à Kasindi. L'objectif est d'empêcher la traversée des pachydermes du parc vers les champs de la communauté riveraine. Alors, 6 mois plus tard, quelle est la situation sur place, Sadiq Aboubakar?
Au début, ce projet a été vivement critiqué. Il s'étend sur environ 50 km de la route nationale numéro 4 sur l'axe Beni Kasindi à la limite du parc avec les communautés riveraines. Cependant, la société civile de la cité frontalière de Kasindi-Lubiria s'est réjouie des retombées de cette clôture qui, selon elle, non seulement empêche les incursions des rebelles des ADF en provenance du parc, mais aussi favorise une bonne production agricole autour de l'aire protégée. Joël Kitaoussa, vice-président de la société civile de Kasindi.
Aujourd'hui, les plantes mûrissent normalement bien sans être dévastées par les animaux du parc.
Du côté du parc national de Virunga, c'est la satisfaction totale. Bienvenue Bouende, chargé des communications de l'ICCN au Nord Kivu.
Il y a la végétation qui revient dans la partie jadis envahie à Lubiria et depuis quelques jours, nous voyons le retour des troupeaux d'éléphants dans cette zone, preuve qu'ils s'y sentent en sécurité. Cette situation renforce la paix sociale et la bonne cohabitation entre justement le parc et les communautés riveraines dans cette zone.
La société civile recommande toutefois à l'ICCN de renforcer les mécanismes de sensibilisation de la communauté au danger d'électrocution sur la dite clôture. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, la morgue de l'hôpital militaire de Goma est bénéficiaire d'un nouveau conteneur frigorifique d'une capacité de conservation d'au moins 50 corps. Il s'agit d'un don de la MONUSCO à cette structure de santé. La remise officielle est intervenue vendredi. Selon le responsable de cet hôpital, en ce moment d'intenses opérations militaires dans la région, le besoin de renforcer la capacité de la morgue de l'hôpital est très urgent. Il remercie donc la MONUSCO pour cette prompte réponse à la demande formulée à travers la hiérarchie de l'armée. Docteur Victor Muyumba est au micro d'Alain Wandimoy.
Nous avions exprimé un besoin. On a eu des difficultés pour conserver les corps des décédés. On a contacté la hiérarchie et la hiérarchie, de sa part, a aussi contacté la MONUSCO. Et voilà les retombées des démarches qu'on a pu mener. Et aujourd'hui, nous avons un conteneur frigorifique pour conserver les corps des militaires et de leurs dépendants. C'est un conteneur qui peut prendre 50 corps. Et je crois que cette capacité ne nous suffit pas. Et c'est pour cela, quand vous regardez, il y a la première dame aussi qui nous a aidés. Dans quelques jours, une nouvelle morgue moderne va renaître des sols de l'hôpital militaire régional de Goma. Il y a beaucoup à demander. Je remercie la MONUSCO pour avoir été diligent parce que c'est depuis une semaine seulement qu'on a eu cette lettre-là. Et voilà, ils nous ont donné notre nouvelle morgue. En tout cas, je leur dis encore merci.
À Beni, une centaine de jeunes filles et garçons viennent d'être sensibilisés à l'hygiène menstruelle. C'était au cours d'une séance organisée par les ONG locales UFEDOC, Union des femmes domestiques du Congo, et Agir RDC, ce en prélude de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai de chaque année. L'objectif de cette activité est d'inciter la jeunesse à briser le silence autour de la menstruation, perçue comme un tabou dans la communauté, affirment les organisateurs. Le compte-rendu de Grévis Salomon.
Les participants sont des jeunes qui pratiquent du sport chaque dimanche matin dans les rues et avenues de Béni. Gertrude Kahambou, l'une des organisatrices, explique l'essence de cette sensibilisation.
Montrer à toutes les jeunes filles et jeunes garçons que l'élément menstruel, ce n'est pas un tabou. C'est un mot comme les autres, que ça ne puisse pas être un sujet de moquerie. Il y a certaines filles jusque-là qui ne savent pas faire leur hygiène. Quand on est dans notre période, ça demande beaucoup de propriétés.
Cette sensibilisation a permis aux participants d'acquérir quelques notions de base, comme le confirme Riziki Vihamba.
Il y a eu de nouvelles choses, de nouvelles techniques que je viens d'apprendre. On nous a dit qu'on peut avoir des infections quand on passe beaucoup de temps sans s'échanger. On peut être atteinte par certaines maladies si on ne respecte pas l'hygiène menstruelle.
Eloge Kiringue appelle pour sa part les parents à avoir des discussions avec leurs enfants-filles de le bas âge autour de cette question.
Des fois, les parents pensent que c'est un tabou et pourtant c'est une question de prévenir aux enfants. Les parents peuvent prendre le temps de montrer comment ça s'est fait pour que ça ne soit pas compliqué parce que c'est très stressant vraiment.
Quelques kits hygiéniques ont été distribués aux participants à la fin de cette sensibilisation. Béni, Grévy Salumou, Radio Kapi.
Actualité internationale. Remaniement surprise en Tunisie. Deux ministres remerciés par Kais Saied, considérés comme des proches du président tunisien, le ministre de l'Intérieur Kamel Feki et le ministre des Affaires sociales Malek Zahi, sont limogés sans aucune explication. Selon un communiqué de la présidence tunisienne, cette annonce fait suite à une vague d'arrestations dans la société civile, faisant craindre un nouveau recul des libertés dans la jeune démocratie tunisienne.
L'invité.
Nous recevons Benjamin Kaloumire, chef de section désarmement et démobilisation PDDRCS Sud Kivu. Il nous parle des acquis de la formation organisée la semaine dernière à Goma par la section DDR de la MONUSCO au profit des cadres et agents de ce programme. Benjamin Kaloumire répond aux questions de Denise Loukesso.
Monsieur Benjamin Kaloumire, bonjour.
Bonjour madame.
Vous venez de clôturer un atelier sur l'analyse et la planification du désarmement et des mobilisations de groupes armés au sud Kivu. Qu'est-ce que vous avez retenu durant les 5 jours de cette formation?
Nous avions été capacités, notamment sur les différentes activités, notamment du désarmement, sur le standard international que l'on doit respecter. On a été capacité sur la différence des différents groupes armés, parce que chez nous, nous parlons tout simplement d'un groupe armé sans pour autant pouvoir le classer et le classifier selon le standard international, savoir différencier un groupe armé d'un groupe terroriste, d'autres sortes de groupes armés. Donc il y a eu cette capacitation qui nous a été très très bénéfique. Sinon, toute la formation a tourné autour de ce concept désarmement et démobilisation dans son ensemble et beaucoup plus sur le standard international par rapport à ce que nous faisons ici, disons pouvoir adapter notre contexte de la RDC sur le standard international.
Alors que la MONUSCO est en train de se retirer progressivement du Sud Kivu, dans le cadre des transferts des compétences aux autorités locales, vous en tant que chef de section désarmement, démobilisation du PDDRCS Sud Kivu, en quoi cette formation va vous aider dans votre travail quotidien comme chef de section du désarmement?
Il s'agit là bien de toutes les compétences qui étaient reléguées à la MONUSCO et en particulier le rapatriement des éléments de groupes armés étrangers et de leurs dépendants. Il s'agit aussi ici d'une manière d'entrer en contact avec les éléments de groupes armés, non seulement locaux mais aussi étrangers, parce que là il y a au moins une méthodologie qu'il faut respecter pour entrer en contact avec ces éléments de groupes armés tels que la MONUSCO le faisait. Et c'est de cette manière-là que nous, au sein PDDRCS dans la province Sud Kivu, nous allons prendre au moins toutes ces responsabilités. Cette formation rentre dans le cadre de cette première formation, dans le cadre du transfert de compétences MONUSCO et le programme PDDRCS. Et surtout que nous avons encore une année à passer avec la MONUSCO, dont nous allons travailler en collaboration pour pouvoir, disons, mener en terme toutes ces activités et nous permettre aussi de découvrir autant d'autres petits secrets que l'on ne connaissait pas, disons, dans ce que nous faisons en rapport avec notre tâche qui nous est révolue.
Êtes-vous prêt, après le départ de la MONUSCO, pour bien assurer les tâches que la MONUSCO faisait autrefois dans le cadre de vos fonctions liées au désarmement et démobilisation?
Nous sommes très bien outillés pour prendre la relève. Je suis maintenant prêt. Là, nous dirons que nous avons besoin d'un accompagnement beaucoup plus technique. Nous avons besoin de l'accompagnement des autres organes des Nations Unies, notamment le PNUD qui va prendre presque toutes les responsabilités de la MONUSCO. Donc nous avons besoin de cet accompagnement dans une franche collaboration pour nous permettre d'amener à fin notre mission qui consiste à la reddition des éléments de groupes armés et à la réduction sensible de la circulation des armes au sein de nos communautés, au sein des éléments de groupes armés.
Pensez-vous qu'il y a des obstacles du point de vue logistique ou moyens financiers qui peuvent vous bloquer à bien mener ce travail-là après le départ de la MONUSCO?
Il y a les obstacles financiers. Si réellement la communauté internationale veut que la paix revienne en République démocratique du Congo, nous prions, disons, à la communauté internationale de venir en appui à ce programme de désarmement, de mobilisation et relèvement communautaire afin qu'elle puisse, disons, mener à terme sa mission.
Voilà, Monsieur Benjamin Kalumiré. Je rappelle que vous êtes le chef de section désarmement et démobilisation PDDRCS Sud Kivu. Radio Kapi vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.